a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et vous serez heureux de savoir que j'arrête la lecture au verset 21. C'est long et compliqué, n'est-ce pas? Moi, je trouve. Moi, je lis un texte comme ça des fois et je me dis, bon, je vais lire le psaume 23, ça va me faire plus de bien encore qu'un texte pareil. Hein. Ça part dans tous les sens. Hein. Alors, on va essayer d'attraper ces différentes choses et puis revenir sur l'essentiel de ce passage. Qui concerne le Père, Dieu le Père. Le mot Père revient 13 fois dans ces versets que je viens de lire. Je les ai comptés, hein. Je sais encore compter, donc je suis arrivé à 13. Et 20 fois dans le chapitre. Donc c'est dense. Tout tourne autour de Dieu le Père. Quand j'étais jeune pasteur, je dis parfois dans une autre vie, ça me semble très très loin, j'étais en Belgique. Nous avons travaillé un moment avec un organisme chrétien qui s'appelle Jeunesse en Mission. Je dis encore jeune à l'époque, donc je pouvais m'y associer. Jeunesse en Mission est un organisme assez remarquable d'évangélisation dans le monde. Et c'est lors de ce contact que j'ai entendu parler du travail de Jeunesse en Mission à Amsterdam, aux Pays-Bas. Tout près de la gare d'Amsterdam, il y a ce qu'on appelle le quartier du sexe. Hein. Il y a des prostituées, etc. C'est pas très beau. Jeunesse en Mission s'est installée dans ce quartier-là pour évangéliser ces gens-là. Et le responsable, c'est un Américain qui s'appelait Floyd McClung. Je ne sais pas s'il vit encore, je pense que oui. Et à cette époque, il a écrit un livre qui s'appelle « Dieu, un cœur de père ». Et ça, c'est mon thème de ce matin. Dieu, un cœur de Père. Notre Dieu est personnel. Ce n'est pas une idée là-haut. Il n'est pas loin, il est plus près de nous. Et surtout, il se révèle à nous en Jésus-Christ comme un Père, qui a un cœur pour nous. Les prostituées d'Amsterdam avaient besoin de cela. D'autant plus que la plupart d'entre elles avaient subi des agressions que vous connaissez de la part de leur père terrestre. Ils n'avaient pas une belle image du père. Et de nos jours, il y a beaucoup qui sont dans ce cas. Mais le père, notre Dieu, qui est dans ce texte, il est tout autre. Alors, voilà le thème. Et le verset qui est au cœur de ce texte, et je n'ai pas à vous expliquer pourquoi ce verset est au cœur, mais il est littéralement au cœur du texte et littéralement au cœur du chapitre. C'est le verset 18. Et on va prendre ce verset comme notre verset de base. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus, je viens vers vous. Un orphelin, vous le savez, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents. Il se fait que j'ai perdu ma maman il y a 3 ans, elle avait 94 ans, chrétienne, est auprès du Seigneur. Mais le jour où elle est partie, j'ai dit à mon frère, nous voilà orphelins. Bien que nous avions tous les deux plus de 60 ans, mais c'est un fait. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est privé de parents. Et même à mon âge, quand on perd une mère ou un père, c'est une perte importante, une référence qui s'en va. Et dans ce texte, Jésus est en train de préparer ses disciples à son départ. Il leur annonce des choses qu'ils ont du mal à comprendre, parlant de trahison dans le chapitre précédent, parlant de sa mort prochaine à la croix. Je vais vous quitter, je m'en vais. Vous l'avez vu dans le texte précédent. Au verset 1 du chapitre 14, il nous est dit que votre cœur ne se trouble pas. Ils sont troublés parce qu'ils se trouvent subitement privés de leur maître, de Jésus, de leurs parents en quelque sorte. Et Jésus veut les préparer à vivre des événements qui vont venir, un temps difficile, en leur donnant ces paroles de réconfort. Je ne sais pas si votre cœur est troublé ce matin ou non. C'est possible. Mais ce que je sais, c'est qu'à tout moment, enfin à différents moments dans notre existence, nous sommes troublés. En tant que chrétien, tout va bien, un temps, et tout d'un coup, le Père n'est plus là. On ne sent plus sa présence, c'est quelque chose que j'entends souvent. Il est parti. Je pourrais donner des témoignages de cela, je vais essayer de gagner du temps. Je ne sens pas sa présence, je ne comprends pas mes circonstances, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis confus et j'ai besoin d'un bon papa qui me donne de bons conseils, qui puisse m'aider. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Comment pouvons-nous être assurés ce matin que Dieu est mon Père et qu'il s'occupe de moi? Quelles que soient les circonstances que je traverse ou que je traverserai, comment être assuré? Comment faire pour voir le Père? C'est ce que je voudrais voir dans ce texte. Alors, je voudrais reprendre les versets en coupant ce texte en 3 grandes parties. On va essayer de, non pas entrer dans tous les détails, ce n'est pas possible, parce que ça part dans tous les sens. Mais on va essayer de rester dans cette pensée. Dieu est mon Père. Il est avec moi aujourd'hui, parce que Jésus est ressuscité. Il a envoyé son esprit. Il vit, il est là. Notre Dieu est auprès de nous. Mais comment est-ce que nous pouvons le voir? Alors, il y a 3 choses, donc. Je vais parler d'abord des versets 8 jusqu'à 11. Une première partie du texte. Si vous avez le passage devant vous, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais on va essayer de voir l'essentiel. Et ceci, voilà ce que je voulais dire pour ces versets. La première chose que nous avons à faire pour voir le Père, c'est de croire. Ça peut vous paraître simple, mais en réalité, c'est peut-être pas si simple que cela. Nous devons croire. Dans les versets 8 à 11, il y a Philippe qui s'exclame, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Quand on est dans des difficultés, dans le noir, parfois, on aimerait pouvoir claquer les doigts. J'arrive à claquer de ce côté-là, mais ce côté-là, ça ne marche pas. On veut claquer les doigts pour que Dieu apparaisse, hein, qu'il remplisse le lieu de sa présence, ou que, miraculeusement, il transforme nos circonstances en un quart de seconde. Je crois que c'est un peu la pensée de Philippe ici. Il est troublé et il dit subitement, puisque Jésus vient de parler du Père, mais montre-nous ce Père et on sera rassuré. Mais la réponse de Jésus est un peu étonnante parce qu'il dit, le Père, tu l'as déjà vu, mais tu l'as vu en moi. Et au verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez, donc deux fois, croyez, nous devons croire à cause de ses œuvres. Dieu ne va pas apparaître comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne bien souvent quand on est dans des situations difficiles ou quand on le cherche à le connaître. Il se fait voir à nous en Jésus-Christ. Et nous devons le croire en regardant le Christ que nous voyons le Père. Alors, je vais essayer de donner un exemple. Encore dans une autre vie, il y a bien longtemps, je lisais des livres d'un pasteur anglais qui s'appelait David Watson. Un homme remarquable à bien des égards. Il avait pris une église de 12 personnes. Lors de sa première prédication dans cette église, il a perdu la moitié des membres qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc il est resté avec 6. Et puis quelques années après, 1000, 2000, 3000 personnes. C'était une œuvre vraiment bénie par le Seigneur, un enseignant, un homme de Dieu. David Watson a vu des miracles dans son ministère, des guérissons. Et lui-même est tombé malade. Un cancer au foie. Il était gravement malade. Il en est mort. On est venu prier pour lui, mais Dieu n'a pas choisi de le guérir. Il avait d'autres projets pour sa vie. Pendant la dernière année de sa vie, alors qu'il était gravement malade, David Watson a écrit un livre qui s'appelle « Ne crains aucun mal ». Ça vient du psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Et dans ce livre, ce qui m'a marqué en lisant ce livre, il raconte que certains jours, il ne sentait pas la présence du Père, il doutait, il était déprimé, il n'allait pas bien, alors qu'il avait tout un passé pastoral d'église béni par Dieu, mais il était dans cette étape, ce stade de sa vie où Dieu n'était pas là. Et il écrit dans ce livre, et dans ces moments-là, je retournais dans mes cours, des choses que j'enseignais, pour contempler les œuvres de Jésus, et notamment la résurrection. Et revenait sur ce qu'il savait, sur des certitudes, et il s'accrochait à ces choses-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez là un verset sur le mur qui est un des versets les plus importants des Écritures, qui parle de la certitude de la résurrection de Jésus. Moi, j'ai souvent suivi cet exemple de David Watson. Dans des moments noirs, quand Dieu n'est pas là, quand je ne comprends pas ce qui se passe, je reviens à ce que je sais et je crois. C'est ce que Jésus nous demande dans ce texte. Il dit, vous voulez voir le Père, mais il est là, il est en moi. Je reviendrai sur ces mots dans un instant. Il est en moi. Vous devez le croire, mais si vous ne pouvez même pas croire cela, croyez à cause des œuvres que je fais, bon, les miracles, bien sûr, la résurrection de Lazare, les noces de Cana, dans ce même livre que vous avez vu, dans le temps, et puis surtout ma propre résurrection, dont il parle au chapitre 5. Croyons que Dieu nous aime, parce qu'il s'est manifesté et il a manifesté son amour pour nous à la croix en Jésus-Christ. Je passe sur beaucoup de détails. Je voudrais juste rester sur cette pensée-là. Comment pouvons-nous connaître Dieu comme Père ce matin en fixant nos yeux sur Jésus, sur les faits qui sont racontés dans les Écritures, qui résistent à toute opposition à tout ce qu'on pourrait dire contre elle? Jésus est véritablement ressuscité. Et s'il est ressuscité, tout ce qu'il dit est vrai. Et Dieu, le Dieu qu'il est venu nous révéler, lui-même qui est Dieu, Jésus, Dieu le Père, il existe bel et bien, et il est bien là aujourd'hui, quoi qu'on pense, et quelles que soient nos circonstances. Voilà pour une première chose. Comment connaître le Père? Il faut croire. Dieu nous demande d'exercer la foi. La deuxième chose que je vois dans ce texte, c'est dans les versets 12 à 14. Et surtout au verset 14, vous avez le verbe « demander ». Et c'est sur ce verbe-là que je voudrais m'arrêter quelques minutes encore. Si nous voulons connaître le Père, nous devons le prier. Nous devons lui remettre nos soucis, nos requêtes, nos demandes. L'apôtre Paul lui-même nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos demandes. » C'est le même mot, « demande à Dieu. » Et la paix de Dieu qui dépasse l'entendement remplira, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est Paul. Ici, Jésus nous dit « Si vous demandez quelque chose, ou tout ce que vous demanderez au verset 13, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Quand on prie et quand on voit Dieu agir, on sait qu'il est notre Père. C'est la logique de ces versets, me semble-t-il. Mais il y a bien entendu un problème qui saute aux yeux, je pense, pour plusieurs d'entre nous. Est-ce que cela suffit de prier en disant « au nom de Dieu » pour avoir ce qu'on souhaite, hein? Une belle villa à la Côte d'Azur, si c'est ça votre... Hein? Je n'en sais rien. Non, bien entendu, Dieu ne demande pas de demander n'importe quoi, mais de prier en son nom, et cela signifie prier selon sa pensée. Et quand on prie, on avait vu cela hier avec Marie-Laure, mon épouse, prier, c'est parler, mais c'est aussi écouter, se mettre à la même fréquence que notre Dieu. Je donne un exemple que je n'avais pas avant de venir ici ce matin, mais au début du culte, on a parlé de Anne dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. Anne, la maman de Samuel, le grand prophète. Au premier chapitre de 1 Samuel, c'est un chapitre que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé. Parce que c'est réel. Nous voyons une femme dans une souffrance atroce. Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle est stérile. Et non seulement elle est stérile, son mari prend une deuxième femme pour pouvoir avoir des enfants. Et puis, cette deuxième femme se moque d'elle. Elle souffre doublement, triplement de cette situation. Et elle doit se demander où est Dieu dans tout cela. Il nous est dit dans 1 Samuel 1 que dans le temple, elle va, ou le tabernacle, elle va prier Dieu. Et une expression remarquable dans le texte qu'on ne retrouve que dans Job, dans d'autres passages de la Bible, c'est l'expression « l'amertume dans l'âme ». L'amertume dans l'âme, elle répandait son besoin devant Dieu. Et Dieu lui répond. Elle va avoir un enfant. Mais avant même d'avoir l'enfant, Dieu lui donne la paix, la certitude qu'il a entendu sa prière, puisque le prêtre va venir lui parler, et elle voit dans cela une réponse à sa demande. Maintenant, lorsqu'elle prie, elle finit par dire à Dieu, « Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. » Et ça va être Samuel. Et c'est ça que Dieu voulait entendre pour répondre. Parce que Dieu avait besoin d'une femme qui enfante un enfant, qui soit prête à consacrer cet enfant à l'œuvre de Dieu. C'est ça c'était le projet de Dieu. Mais avant d'en arriver là, il aurait fallu qu'elle passe par des temps de souffrance qui sont inexplicables à bien des égards. Sinon que nous avons le dénouement de l'histoire, l'aboutissement, et nous voyons que Dieu était là tout le temps. Quand elle prie, dans un premier temps, elle dit « Donne-moi un enfant, je ne comprends pas. » Mais quand elle écoute Dieu et qu'elle finit par dire « Si tu me le donnes, je te le donnerai. Là, elle prie selon la volonté de Dieu. Quand nous prions, nous devons écouter. Mais nous prions avec la certitude que Dieu, notre Père, nous entend. N'est-ce pas? Si nous croyons que Dieu existe, qu'il est le Dieu des Écritures, le Dieu d'amour qui se révèle à nous en Jésus-Christ et surtout à la croix, quand nous prions, nous savons qu'il nous entend. Mais une dernière chose que je voulais dire par rapport à cela dans le texte, parce que le verset 12 nous dit, et c'est un verset qui est compris de différentes manières, dans Jean 14, verset 12, il nous est dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. » Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont ces œuvres plus grandes? Beaucoup pensent qu'il s'agit de miracles, qu'on peut ressusciter les morts, comme Jésus l'a fait. Certains pensent même pouvoir marcher sous les eaux, comme Jésus l'a fait. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui s'est noyé comme cela. En Afrique, il s'est fait manger par des crocodiles, me semble-t-il. J'ai pas pu vérifier. Mais il y a des gens qui vont jusqu'à penser pouvoir faire tout ce que Jésus a fait et bien au-delà. Mais comment pouvons-nous faire de miracles plus grands que Jésus? La chose me semble impossible. Bon, il se fait que je crois au miracle, que Dieu, dans sa grâce, m'a permis de voir des guérisons dans mon ministère, même que je n'y croyais pas. La première fois que j'ai eu une guérison, je n'y croyais pas, et c'est arrivé quand même. Mais je ne pense pas que les œuvres plus grandes dans ce texte nous parlent de miracles. Parce que Jésus dit, parce que je m'en vais vers mon Père. Lorsque Jésus s'en va vers son Père, il envoie par la suite le Saint-Esprit sur son Église pour nous permettre d'aller dans le monde entier avec son Évangile. Ce que Jésus n'a jamais fait. Donc Jésus est Dieu. Je ne vais pas diminuer Jésus d'aucune manière. Il est pleinement Dieu et il est dans la gloire aujourd'hui. Et c'est lui qui œuvre en nous par son esprit. Là, je dis pas du tout le contraire. Mais vous savez, Jésus a exercé son ministère sur un bout de terrain pas beaucoup plus grand que ma région bretonne, Israël, un tout petit pays. Il n'est jamais allé ailleurs. Mais après sa mort et sa résurrection, il a donné le Saint-Esprit à l'Église de faire de nous des témoins pour apporter cet évangile jusqu'au bout de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est une œuvre plus grande, me semble-t-il. C'est toujours Jésus qui œuvre en nous, c'est toujours Dieu qui convertit, et pas nous, mais nous sommes les instruments de son travail. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous dit, demandez ce que vous voudrez. Nous sommes souvent découragés en évangélisant, n'est-ce pas? Je suis en France depuis longtemps, je sais bien que ce n'est pas facile. Mais si nous prions, si nous accompagnons notre proclamation de la parole par la prière, si nous nous mettons à l'écoute de Dieu pour savoir quelles sont ses méthodes, ses approches, sa pensée, sa volonté, il agira. Parce que Dieu est notre Père et il ne nous laisse pas orphelins. Il reste avec nous dans la mission qui nous est confiée. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons croire, nous devons demander, et vous allez vous dire, oh là là, il a encore, je ne sais pas combien de versets à commenter, ça va durer combien de temps, mais je vais faire vite. Et une dernière chose que je voulais dire à partir du verset 15. La dernière chose que nous avons à faire pour voir, je voulais dire que par rapport à la prière, est-ce que c'est pas vrai que des fois, quand on prie et qu'on a la réponse, on est dans la louange, on est émerveillé. Et on dit, mais Dieu, il m'aime vraiment. Alors que, comment se fait-il que j'avais douté pendant un temps? La dernière chose que je vois au verset 15 jusqu'au verset 21, c'est le verbe obéir. Nous devons obéir. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est à ce moment-là qu'il se manifeste en nous, dans nos circonstances. Les versets 15 à 21 parlent d'un autre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Vous savez sans doute que ce mot, c'est le mot paraclet, qui est parfois encore dans le texte, dans certaines traductions. Un mot qui veut dire celui qui vient à côté d'eux et qui accompagne, qui console, qui réconforte et qui fortifie. Je ne vous laisserai pas orphelins. Lorsque nous évangélisons, nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous faisons face à nos circonstances, quelles qu'elles soient, nous ne sommes pas seuls. Parce que Jésus nous envoie un autre consolateur. Quand il dit un autre, il dit en quelque sorte, comme moi. Moi, je ne reviendrai pas physiquement sur la terre. Moi, je monte auprès de mon Père. Il a déjà dit dans les premiers versets, vous préparez une place. Là, c'est ce que je fais moi. Mais une fois que je serai là-haut, je vous enverrai le Saint-Esprit, un autre consolateur. Et il sera en vous et il vous révélera le Père. Le monde ne le verra pas. Ça, c'est notre difficulté, bien souvent. Hein? On se dit, mais tout le monde doit le voir. Mais non, mais nous, on le sait parce qu'il est en nous. Et c'est lui qui nous révèle le Père. Mais au verset, ceci est très important. Alors écoutez, vous n'avez rien entendu jusqu'à présent. Voilà, je vais dire enfin quelque chose d'important. Au verset 15, il est dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Quel est le mot le plus important dans la phrase que je viens de lire? Je vais vous le dire, c'est le mot « est », E-T, qui n'est pas dans toutes les traductions, malheureusement. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que ce que Jésus dit, me semble-t-il, n'est pas trop difficile à comprendre. Vous m'aimez, dit-il, vous êtes troublés, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, c'est leur situation, vous êtes confus, mais vous m'aimez. Alors voilà ce que vous avez à faire. En attendant, vous obéissez, vous gardez mes commandements, faites ce que je vous dis, faites tout ce que je vous ai proposé jusqu'ici et dans ce texte et après sa résurrection encore. Faites en attendant et en obéissant, vous allez voir que cela va aboutir au don du Saint-Esprit. Je vais me manifester à vous. Je pense que là, il y a un principe important pour notre marche avec Dieu. Quand on est dans des circonstances qu'on ne comprend pas, on reste dans l'obéissance. Notre réflexe, bien souvent, c'est tout le contraire, me semble-t-il. Mon expérience de pasteur et d'être humain me fait dire cela. Quand on perd un peu la vision, alors on chute, on s'éloigne, on s'en va. Et Jésus nous prévient, il dit non, ce n'est pas ce que vous devez faire. Dans Acte 1:8, un texte qui a été cité hier, me semble-t-il, Jésus va dire à ses disciples, après la résurrection, Acte 1, verset 8, ne bougez pas, restez à Jérusalem. Hein? N'allez pas tout feu, tout flamme évangéliser en disant que je suis ressuscité ou que vous m'avez vu monter au ciel. Ne faites pas, bougez pas avant de recevoir le Saint-Esprit. Donc là, il donne un commandement qui est un peu bizarre, mais ils attendent 10 jours. 10 jours, c'est long. Sinon qu'ils devaient savoir que ça devait arriver à la fête des prémices. Ils ont pu peut-être se douter de cela. La Pentecôte, ils ont obéi et puis Dieu agit. Comment pouvons-nous connaître le Père? Nous devons croire. Ce n'est pas par la vue que nous voyons le Père. C'est par la foi, en fixant les yeux sur Jésus et sur sa résurrection. Surtout, nous devons croire, nous devons demander tout bon père aime que ses enfants viennent demander des choses. Mais ils ne vont pas toujours donner tout ce qu'ils demandent, parce que ça peut être dangereux même. Mais ils vont écouter. Et puis ils vont répondre chacun à sa manière. Quand nous prions, Dieu entend et il agit. Et nous devons obéir. Écouter ce que Dieu nous dit, même dans les moments ténébreux. Je vais terminer comme ceci. Le texte nous parle de beaucoup de choses. Je dis au départ, ça part dans toutes sortes de directions. Mais le texte nous parle surtout de Dieu. Et je voulais dire trois choses en terminant. Le texte nous parle d'abord de la personne de Dieu. C'est-à-dire, qui est-il? Comment est-il? Et ce texte nous montre clairement que Dieu est un en trois personnes. C'est un des textes majeurs de la Bible qui nous parle de ce qu'on appelle la Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis on a ce langage qui est un peu bizarre. Hein? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Hein? Et vous serez aussi dans le Père et en moi, ce qui est formidable. On va être unis au Père par le Saint-Esprit. Tout ce langage est là pour nous révéler Dieu comme trinitaire, comme trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Le Dieu des Écritures n'est pas le Dieu de l'islam, quoi qu'on dise. Parce que le Dieu de l'islam n'est pas Trinité. Il renie la divinité absolue de Jésus-Christ. Le Dieu de ce texte n'est pas le Dieu des témoins de Jéhovah. Il est Trinité. Et il est personnel. Il est Père. On peut le connaître. Être chrétien, c'est entrer dans une relation avec ce Dieu-là, et non pas avec une idée que nous aurions de Dieu qui n'est pas, qui ne correspond pas à cette révélation. La personne de Dieu. La deuxième chose que je veux dire concerne les voies de Dieu, c'est-à-dire sa manière d'agir. Beaucoup aujourd'hui cherchent des miracles. Je ne suis pas contre, absolument pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de miracle que Dieu n'est pas là. Bien au contraire, Dieu, me semble-t-il, se montre souvent dans la Bible un Dieu discret, qui agit discrètement. Et c'est pour cela que nous pouvons voir son action des fois, mais que les gens autour de nous ne le voient pas. Parce que ce n'est pas un show, un spectacle ou quelque chose exceptionnellement spectaculaire. C'est pas par ces choses-là que Dieu se dévoile, mais c'est dans les petites choses de la vie. Souvent nous disons dans le pastorat, mon épouse et moi depuis longtemps, que lorsqu'on est dans vraiment une grande épreuve, il faut s'accrocher à ce qu'on appelle les clins d'œil de Dieu, les petites choses. Dieu se révèle dans des petites choses. Il ne va pas nous sortir peut-être de notre difficulté tout de suite, mais il se révèle de telle ou de telle manière, discrètement. Les voies du Seigneur, c'est comme cela qu'il agit. Et finalement, c'est comme cela qu'il agit à la croix. Jésus n'est pas venu dans Jérusalem sur un ânon, mais même pas sur un cheval de guerre. Il n'est pas venu sur son ânon pour régner, pour mettre les Romains dehors. Comment penser? Ça aurait été éclatant, formidable. Tu es le Messie. Non, il est venu mourir. Et les disciples n'ont pas compris sur le coup. Mais ils ont compris plus tard. Et c'est comme ça qu'il agit bien souvent dans nos vies. Les voies de Dieu. Et la dernière chose que je voulais dire concerne le caractère de Dieu. Ce texte nous révèle son caractère. C'est un Dieu d'amour qui nous envoie le Fils mourir à la croix pour nous, pour que nous puissions entrer dans une relation avec Dieu comme Père, quand il nous envoie le Saint-Esprit pour nous faire naître de nouveau. Notre Dieu est un Dieu qui, quelles que soient les circonstances qu'il permet, ne cesse de nous aimer. Quels que soient nos cœurs et nos réactions, il ne cesse de nous aimer. Nous devons croire nous devons prier, demander et nous devons obéir. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous.